Alain Bashung est né à Paris le 1er décembre 1947. Il disparaîtra le 14 mars 2009, deux semaines après son ultime consécration aux victoires de la musique. Sur son chemin, il laissera Gabi et Joséphine orphelines, les vertiges d'une dame qui rêve, un mensonge nocturne, une petite entreprise, une fantaisie militaire, quelques imprudences, puis un dernier Lego. Voici la sixième des 10 émissions qui vous racontent l'histoire d'Alain Bashung.
Les radios francophones publiques présentent
Alain Bashung.
De l'aube à l'aube.
De l'aube à l'aube.
Alain Bashung, de l'aube à l'aube. Une émission de Gérard Sutter et David Golland avec aujourd'hui
Jean Fauque, auteur de chansons.
Pascal Nègre, président d'Universal Music.
Phil Delire, ingénieur du son et réalisateur.
Nicolas Fiesman, musicien en tout genre.
Stéphane Belmondo, trompettiste.
Jean-Marc Lederman. Je joue principalement de tout ce qui est sampler et matériel électronique. Du moment que ça fasse du bruit, c'est bon pour moi.
Françoise Hardy, chanteuse.
Pierre Mikhailov. J'ai donc écrit plusieurs biographies, dont celle d'Alain Bashung, qui s'appelle Bashung, Vertige de la vie.
Marc Bess, auteur, a pu faire la biographie d'Alain Bashung de son vivant.
Bashung. Bashung. De l'aube à l'aube. France Inter.
Sixième épisode, l'aventure américaine d'Osée Joséphine en 1991 et les collages de Chatterton en 1993.
Bashung. Archives Radio France.
J'ai fait un jour ce voyage à Memphis où il y a effectivement deux, trois endroits qui sont des lieux légendaires comme le studio Sun où ont été enregistrés quand même les premiers disques de rock de Jerry Lee Lewis, de Presley, enfin... C'est une espèce de petite cage, enfin c'est tout petit, on s'imagine très mal comment des... cette musique qui a été enregistrée dans ce tout petit endroit au coin d'une rue a pu bouleverser le monde. On se croirait à Lourdes, et de là sont sorties des émotions qui ont bouleversé des gens, des Japonais, des Australiens, c'est assez incroyable. Mais ce que j'ai vu surtout, bon, j'ai enregistré une chanson, j'ai choisi, je crois, peut-être une des premières que Elvis Presley avait enregistrée, qui s'appelait « That's Alright Mama ». Et je me suis retrouvé à jouer juste avec une guitare sèche et chanter. Et je sortais de ces albums où j'étais resté beaucoup de temps à trafiquer des machines. Et je me dis, mais waouh, je voudrais faire un album entier dans ces conditions parce que c'est. Il faut revenir à ça un petit peu.
Well, that's alright, mama. That's alright for you. That's alright, mama. Just. Any way you do, that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do.
Marc Bess, auteur de Bashung une vie, paru chez Albin Michel.
Pour Alain, c'est vraiment le voyage au cœur de la source. Lui qui avait toujours rêvé de l'Amérique, qui avait toujours fantasmé l'Amérique, qui avait toujours essayé de faire de l'américain depuis la France. Il a fait le tour de toutes les formes de rock européen possibles et imaginables sur les albums précédents. Et bien, il venait tout simplement d'avoir l'Amérique qui est entrée en lui, quoi.
Jean Fauque, parolier.
Il va visiter la maison d'Elvis et il y a quand même ce retour aux racines. Ça le marque. Il en parle avec Claire Monté, qui est producteur délégué chez Barclay, qui est en charge de la carrière d'Alain, qui lui dit un moment... Ben là, c'est peut-être pas un rêve, finalement, tu sais, au niveau budgétaire, les budgets sont serrés, hein, parce qu'il n'y a pas eu de tubes. Pareil, depuis 4-5 ans, il n'y a plus de tubes, donc ils sont pas très généreux dans la maison de disques. Il lui dit, mais tu sais, aller passer 10 jours là-bas, c'est peut-être pas impossible. Et là, c'est comme si on offre un train électrique à un gamin qui en a toujours rêvé, c'est génial. On voulait un peu une couleur Tex-Mex comme ça, parce qu'on était fan de Ray Cooder, ça nous rappelait aussi les histoires de Gigi Kell, tout ça. Et puis les mecs, en plus, ils répondent oui. Sauf que juillet, c'est une mauvaise période, parce qu'ils sont tous pris en festival. Alors finalement, on a eu la bande de John Hyatt, qui était un type qu'Alain aimait beaucoup. Grosso modo, on va dire qu'il y en a trois qui l'ont joué un peu touriste. Batterie, basse et orgamonde, et deux... garçon merveilleux, en plus des cadors. Bon, alors dans le monde, hein, c'est simple, il y a dans la guitare slide, il y a Ray Cooder et Sonny Landreth. Alors on n'a pas eu Ray Cooder, on a eu Sonny Landreth. Et Bernie Lydon, qui était un type formidable, qui avait quand même un sacré parcours, Flying Burritos, qu'elle admirait beaucoup, qui avait commencé avec les Eagles, tout jeune. Un mec avec une biographie impressionnante, et ces mecs-là ont pris vraiment le truc à cœur. Et je me souviens de la première séance, on avait un sublime studio, magnifique, qu'avec du matériel vintage, une salle immense, tout en bois, studio ardent, ardent studio, des mecs adorables. Et là, 1, 2, 3, 4, Alain dans la cabine, enfermé, avec la petite cabine, mais où il voyait les musiciens, cabine en verre, à l'intérieur du grand studio, les mecs dispatchés, donc tout le monde qui joue en temps réel. Alain, il lui colle le Neumann U47, dans lequel, authentiquement, Elvis avait chanté, Elvis et bien d'autres, donc quand même, ça impressionne. Et là, dialogue avec la musique, pareil, il n'avait pas besoin de trop parler, c'était super. On était comme des gamins.
She's got everything she needs. She's an artist, she don't look back. She's got everything she needs. She's an artist, she don't look back. She can take the dark of night time, paint the daytime black.
Jean Fauque.
Alain s'était mis en tête de faire la reprise de Piaf, Les Amants d'un jour, avec ce truc très français, en tout cas européen, même système qu'on retrouve dans la valse à mille temps de Brel, où il y a une valse qui accélère. Et là, ils étaient paumés. Pourtant, la valse, ils connaissent un peu. Hein. Chez les Tex-Mex, ils connaissent bien. Dans le country, il y a beaucoup de valse. Mais alors là, cette valse qui accélérait, ils devenaient fous. Et Alain, il n'arrivait plus à les arrêter. Il disait, les mecs, écoutez, on a peu de temps, faut vraiment qu'on passe à notre titre. Non, il se faisait un point d'honneur. Je me souviens de Eric Clermonté en train de battre la mesure et de leur montrer les trucs pour l'accélération. Crazy French song, it's not possible et tout. Et les mecs, ils luttaient, genre, bah, on va la voir. On a passé de l'après-midi et la soirée. Et Alain, il disait, merde, j'aurais jamais dû faire ça, puis on peut plus les arrêter.
Marc Bess.
Dans le fait de faire jouer des choses françaises aux musiciens américains, il y avait aussi un souci de se présenter quand même. Donc voilà, je ne viens pas vous solliciter comme des requins de studio, je viens pour me présenter, voilà, ma langue c'est ça, mon patrimoine français c'est ça, et j'aimerais bien voir qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Petite manière, dire bon, je vais chanter vos chansons, mais vous allez aussi essayer d'interpréter les miennes. Et il a dans l'idée juste un truc. C'est que toutes ces reprises, si elles fonctionnent, pourraient donner une espèce de disque de reprise qui serait comme une passerelle tendue entre la France et les États-Unis, et que ça pourrait constituer un volume entier d'un double album, Osez Joséphine, sur lequel il y aurait des chansons originales et des reprises. Bon, le projet n'est pas allé au-delà du fantasme. C'est-à-dire qu'en fait, par nécessité, le double album a été ramené à un simple album où la partie américaine est incarnée par des reprises et la partie française par des créations originales.
Au large, les barges se gondolent dans le roulis. Ici, on cuit au bain-marie. Un coup, je te lave, un coup, tu m'essuies. Ici, on se botte, on se débecte. Et les mouettes se délectent de nos anecdotes. Au large, les barges se gondolent dans le roulis. Ici, on suit des bikinis. Les jours de grève, le sable s'ennuie. On se prélasse dans les grandes surfaces. Là où se pressent les huiles. Et les bigorneaux. J'écume. J'm'enrume. J'écume.
d'aller éternuer, de retourner le canoë. Être le dernier à s'éterniser sur ton corps alangui. Les barges se gondolent dans le roulis. Et si on jouit avec la petite du bord de mer dans mon jacuzzi, du premier jour j'ai tout gardé, puis j'ai mélangé le léger, le corset. J'ai de retourner le canoë. Être le dernier à s'éterniser sur ton corps alangui.
Bachung. De l'aube à l'aube. France Inter.
Aujourd'hui, l'aventure américaine d'Osé Joséphine et les collages de Chatterton.
Pascal Nègre, président d'Universal Music.
Je viens d'être nommé patron de Barclay. Et donc on est en 91. Et en fait, on se rencontre. Alain est en train de travailler sur un nouvel album qui va s'appeler Osé Joséphine. L'idée, c'est de partir aux États-Unis et d'enregistrer un album plutôt country. Ce qu'il fait. Et puis, il revient.
Il est mort de peur.
Et effectivement, il est mort de peur. Alors, il est d'autant plus mort de peur que l'album n'est pas terminé. Et que l'album, à l'époque, avait coûté une fortune déjà. Et donc, j'écoute. Et je dis, c'est bon, il faut faire la suite. Et tout à coup, je vois le Bachung qui est effectivement mort de peur, tout à coup se décontracter. Et puis dire bah c'est génial, et puis pas faire la suite, et c'est là où il faut faire Madame Rêve. Madame Rêve, c'est quelque chose en plus d'assez intéressant, parce que d'abord c'est un hymne à la masturbation féminine, bon voilà, ce qui est a priori pas évident. Et c'est intéressant parce que c'est un mélange entre des synthés au violon et des vrais violons. Et quelque part, bizarrement, c'est le premier grand titre début 90 qui marque le retour du violon dans la variété française. Instrument qui avait quasiment disparu dans les années 80, parce qu'on était sur le synthé, les machins, et tout à coup, retour du violon. Et le premier grand titre, alors là, on peut pas faire plus de violon que de Madame Rêve, c'est Madame Rêve, qui 2 ans plus tard va faire une pub pour un café. C'est quand même absolument fou, parce qu'il prouve que les gens écoutent pas les paroles. Tant mieux d'ailleurs à l'époque, pour Alain qui a besoin d'argent, donc ça tombait bien. Et voilà.
Françoise Hardy.
Moi j'ai toujours été en admiration devant l'ensemble de son travail. C'est sûr que quand il avait cet album sur lequel il y avait Madame Rêve, alors là, c'était un summum absolu. Même Jacques Dutronc, donc, qui n'écoute pas trop de chansons, quand il a entendu ça, il aurait aimé pouvoir chanter une chanson comme ça.
Madame Rêve, d'atomise et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame Rêve, Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh, ciel.
Été 1991, avec l'accord de Pascal Nègre, Alain Bachung poursuit l'enregistrement de l'album Osez Joséphine au studio ICP à Bruxelles.
À ICP, il y avait ses cordes, les cordes magnifiques de l'Orchestre National de Belgique.
Jean Fauque, parolier.
Il y avait les gars formidables, tous les ingés, Phil Delire, Joe, avec qui Arouine, enfin tous, Michel, tous ces gars super, et John, le patron, avec qui il avait l'habitude de bosser. Tout le boulot, les cordes et tout ont été peaufinés là-bas. Les cordes au début venaient pour Madame Rêve, évidemment, là par contre c'était prévu. Mais l'idée d'avoir voulu mettre des cordes sur Joséphine, qui a été pour moi une des grandes raisons aussi du succès, ces trucs très, très élégants, un peu mozartiens qu'il y a sur ces réponses de cordes, ont fait partie, une bonne partie du succès de la chanson, parce qu'elle n'y était absolument pas quand on est revenu de Memphis.
Phil Delire, ingénieur du son au studio ICP.
En fait, le morceau avait été enregistré à Memphis, avant que moi j'intervienne sur la chanson. Dans le studio, ce morceau était binaire. Et il y avait un manque de tournerie. Et c'est là que j'ai demandé à Alain, est-ce que tu as encore la maquette que tu as faite chez toi, ta création personnelle? Et là, j'ai écouté, je dis, mais ils sont gourés aux États-Unis. Parce qu'en fait, la chanson était ternaire.
À l'arrière de Berlin, en Denis, des marques de figurines.
Jean Fauque.
Moi, j'avais programmé un peu par hasard, en bricolant le midi, j'avais trouvé une rythmique, mais vraiment, une façon très hasardeuse de cheval en mélangeant les notes, en trafiquant le midi. Et tout à coup, ça avait donné un peu la base de ce qui allait être la rythmique de Joséphine, le pied de grosse caisse et le truc, tchik, 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 ce truc cheval. Et puis, arrivé à Memphis, une fois le morceau enregistré, quand même, ça me titillait cette histoire. Je trouvais qu'on avait perdu le côté vraiment efficace et évident de cette chanson qu'elle avait à la base. Et puis un soir, chez Alain, je lui reparle de cette rythmique. Il me dit, bah oui, il dit, je sais. Il dit, bah réécoutons, comparons avec la maquette. Et puis, arrivé au refrain, à la moitié de la chanson, il me dit, bon, ok, j'ai compris. Et le lendemain, il a demandé de décomposer, c'est-à-dire d'extraire tous les sons un par un de la batterie pour garder le son de Memphis et de reconstruire à l'identique la rythmique initiale de Joséphine. Là, du coup, on retrouvait la tournerie initiale, l'efficacité initiale, et quand on est allé ensuite finir l'album à ICP avec Phil Delire est encore intervenu sur cette rythmique, sur l'agencement de la tournerie, pour que ce soit encore plus évident. Voilà, mais on l'avait échappé belle, parce que je suis pas certain du tout, si on n'avait pas eu cette rythmique initiale, cette tournerie, que ce soit devenu le succès que ça a été.
Pascal Nègre.
Et puis après, donc, c'est Mondino. Donc l'idée, c'est pochette Mondino, vidéoclip Mondino, avec le clip avec le cheval qui tourne dans le cirque, et avec lui qui est dos à dos avec une top modèle torse nu. Ouais. Et là aussi, ça aura coûté une fortune à l'époque. Mais bon, on le fait. Il faut remettre ça dans son contexte. Alain, à l'époque, vendait très peu de disques. Hein. Faut pas se mentir, Alain, c'était 30 000 albums. Hein. Bon. Il avait fait un ou deux tubes, donc il avait vendu un ou deux 45 tours, mais en vente d'albums, il vendait rien. Quoi.
Quand vous reprenez les rênes, il sort de trois albums, il n'y a pratiquement pas de tubes.
Alors, il n'y a quasiment pas de tubes, et alors surtout, il n'y a pas de vente. En fait, très clair, Alain, c'est un chanteur qui, effectivement, est dans un espèce de triptyque Libé, avec Bayon qui est hystérique, Télérama, et puis Le Noir, quoi, sur France Inter, quoi. Voilà, bon, c'est ça, Bachung, hein. Et c'est vrai que tout à coup, je sais pas, moi, je crois au projet, je crois à l'artiste, je crois surtout au potentiel. C'est-à-dire, je crois que tout à coup, Alain, il y a un moment donné, c'est pas possible qu'un gars qui ait autant de talent soit pas connu d'un public plus large, quoi. C'est juste pas possible. Et donc, ben, on part dans cette aventure avec, donc, Osez Joséphine, premier single, avec un accueil qui est pas si mal que ça en radio. C'est la première fois où il a une critique mitigée dans Libération. Alors, il est assez miné. J'ai dit, écoute, si on a une critique moyenne dans Libération, normalement, ça veut dire qu'on va en vendre beaucoup. Alors, et puis, tu crois? Je dis, bah, écoute, on verra bien. Et l'album démarre du feu de Dieu. Avec, à l'époque, des gens qui viennent dans les magasins de disques en disant, on voudrait le disque où il y a le clip avec le cheval dans le cire, quand même. Ce qui est juste incroyable. C'est juste incroyable. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas demander le dernier album de Bachung, ils demandent l'album où il y a la musique avec le, dans le clip avec le cheval, quoi. C'est quand même dingue.
Pierre Mikhaïlov, auteur de Bachung Vertige de la vie, paru aux éditions Alphée.
Il cesse d'être hermétique. Et ça passe notamment par le magnifique clip que va lui faire Mondino, d'une simplicité biblique. Tout tourne autour de lui. Et là, il se bâtit un petit peu son image, qui va être la sienne jusqu'au bout. C'est-à-dire cette image très rock et très dandy à la fois, d'extrêmement sophistiqué. Cette sensualité aussi, il va, à partir de là, il va utiliser dans l'image, je trouve, plus de sensualité qu'il ne l'a jamais fait.
De demi-dieu, livré à eux, ils vont des petits, ils vont des ennuyeux, à l'arrière des dauphines, je suis le roi de ce néant, à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez Joséphine, osez, osez Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit. Usez le sourire, usez le sourire, soyez ma muse. Et que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, osez Joséphine, osez. Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, 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 osez. Osez, osez Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
Bachung, de l'aube à l'aube. France Inter.
Aujourd'hui, l'aventure américaine d'Osez Joséphine et les collages de Chatterton.
Jean Fauque, parolier.
Dès 92, hein, on se remet sur Chatterton. Il est évidemment, comme je dis en rigolant, les chevaux du plaisir l'ont remis en selle. Il a enfin pu se sortir de situations financières compliquées. Il achète une maison encore un peu plus éloignée d'où il était, dans un petit village à la campagne. On est plutôt content des chansons. Je trouve que on fait encore un pas supplémentaire dans notre coécriture. Et au moment du casting habituel pour trouver les musiciens, ben là, ça foire un peu parce que c'est encore pire que ce qui nous arrive sur Joséphine. Tous les gars qui en pensent, particulièrement Vinnie Reilly de Dorothy Colomb, on voulait une ambiance de planerie de guitare et tout comme ça. Vinnie Reilly malade. Alain fait venir à Bruxelles le guitariste de Chris Isaak, dont il aime beaucoup le son. Le mec, on n'a jamais su ce qui s'était passé. Il a fait 3 notes et il est resté 1 mois dans sa piole à pas pouvoir sortir. On ne sait pas ce qu'il y a eu. Malade, est-ce que c'est une déprime, est-ce que c'est... On ne sait pas. Et on se retrouve un peu avec des mecs qui n'ont pas grand-chose à faire ici, quoi. Et il faut ramer pour rattraper le coup sans arrêt. Alors l'histoire est un peu rattrapée par 3 gars sur qui ça repose beaucoup. Il y a Michael Brook qui, à défaut de guitare planante comme Vinnie Reilly, est aussi très bon dans ce genre de guitare très aérienne, canadien anglophone, qui finalement intervient sur toutes les chansons. Il y a ce type qui joue avec Tom Waits et avec qui il finira par faire beaucoup de choses, Marc Ribot. Et il y a aussi Stéphane Belmondo. Voilà, on entend un moment des morceaux qui se prêteraient assez à une ambiance un peu de jazzy. Et il lui dit, écoute, joue où tu veux et puis on se débrouillera sur toutes les chansons qu'il y a, fais ce que tu veux. Il était un peu surpris d'ailleurs, comme souvent des musiciens pu l'être avec Alain. Personne pour t'es pas là pour me guider, pour me demander non, je vais dans ma piole regarder des cassettes et puis t'inquiète pas, j'écoute très tôt, t'as 2 jours, t'as 24 heures, 48 heures, j'en sais rien, tu fais où tu veux, quand tu veux, c'est pas, vas-y au feeling. Puis c'était bien en même temps, alors le mec ça le libérait complètement aussi.
Stéphane Belmondo.
J'écoutais la musique d'Alain depuis très longtemps. J'étais un amoureux de ses textes, voilà, qui me touchait. Le fait, évidemment, de son invitation m'a plus que touché, quoi. C'était, pour moi, on va dire un rêve. C'était un chercheur. Il allait toujours trouver des musiciens qui ont des sons qu'on ne trouve pas, ou mélanger tout ça. Et c'était un précurseur pour moi. Et donc, je m'inquiétais pour ça. C'est-à-dire que j'y avais demandé les textes, évidemment, des chansons, pour avoir l'histoire, pour pouvoir me placer exactement où il faut, parce que c'est pas évident. Et en fait, je me rappelle la dernière fois que j'ai eu au téléphone, donc il m'a dit, mais non, je te donnerai rien, tu vas arriver, je veux que tu joues ce que tu es toi, je sais que tu connais ma musique, je sais tout ça, reste comme tu es d'habitude, et c'est ça que je veux. Passer la porte du studio, j'ai même pas demandé qu'il me passe une fois la bande, j'ai juste fait mon son, derrière les instruments, la voix était coupée. Et c'est les premières prises en fait qui sont restées, donc j'ai demandé la voix très forte dans le casque parce que j'avais besoin d'entendre le texte. Et finalement, je me suis mis direct dans son univers et en fait, il est arrivé. On a écouté ensemble les premières prises et il m'a attrapé la main, il m'a dit « Ok, c'est bon, on garde tout ça ».
Pierre Mikhailov, biographe de Bachung.
Là, il va commencer à s'amuser et ses albums vont devenir des castings incroyables, des castings pléthoriques. On va avoir des dizaines de guitaristes, de cordes, de batteurs, etc. Pour chaque chanson, il va prendre quelques notes ou tout ce qu'ils ont enregistré et faire comme ça des petites peintures en prenant les musiciens comme des couleurs et en faisant des tableaux où chacun amène sa touche, son style, son originalité. Alors, dans sa façon de travailler, il y a toujours ce côté instinctif. Par exemple, il n'y a pas de partition, il n'y a même pas de grille d'accords. On baigne dans sa musique.
Après d'âpres hostilités, tu me prenais la main et tu m'emmenais sur le mont Valérien, me faire voir les galaxies, me faire écouter les comètes. Tu me disais, préconisais des caresses volubiles, c'était quand je voulais, où je voulais. Je n'étais plus la risée.
Nicolas Fisman, musicien.
Tout cet album s'est trouvé être une grande opération de laboratoire, de recherche. C'est du pain béni pour des musiciens. On vous laisse champ libre, totale latitude pour être créatif. J'avais pas encore complètement vécu ça, je pense.
Est-ce qu'on peut comparer Bachung à une espèce de metteur en scène, de musicien?
Oui, je pense qu'on peut effectivement comparer le travail d'Alain, le travail de metteur en scène un petit peu, de réalisateur, de film. Enfin, il a cette démarche en tout cas de donner des voix. Il ouvre des portes, il permet d'essayer des choses. Et on ne sait pas très bien où on va. Peut-être que lui sait. Il était peut-être très très fort, justement. Il savait très très bien où il nous emmenait. Bon, quelque part, je pense qu'il le savait, mais toujours d'une manière tellement fine. C'était très excitant, en tout cas, d'y aller.
Fil de lire, ingénieur du son et réalisateur.
Ben Alain, moi j'ai toujours, pour moi c'est un dandy, un poète abstrait, qui aimait justement rechercher ces nouveautés. Et les gens souvent qu'il engageait, il les engageait pour leur talent, mais aussi parce qu'il savait très bien que c'était des gens qui n'avaient pas peur de prendre des risques. Donc c'est des gens qui pouvaient facilement se mettre à l'envers pour créer une nouvelle idée, pour amener un projet, mais tout à fait autre part. Et c'est ça qu'Alain aimait bien, parce que parfois, on arrivait à des couleurs particulières. Et lui, il était tout le temps à la recherche de ce genre d'événement.
Archive Radio-Canada.
Je commence à composer mon album, et très très vite, je me dis, il faut absolument que ce soit quelqu'un qui joue dans ces sphères-là. Par exemple, Michael Brooks a fait des albums qui sont assez proches d'une sorte de New Age. Presque c'est de la musique un peu flottante, comme ça... Alors, pour certaines mélodies, j'avais envie de mettre en conflit presque un guitariste qui me donne, comme une peinture, des sons un peu flottants, comme ça, ouais. Qui raconte l'infini un peu, et Marc Ribot qui est le contraire, qui est un perturbateur, et les mettre ensemble, raconter assez ma musique ou mes mots. Parce que dans ce que j'ai envie de raconter, je mélange parfois, d'une ligne à l'autre, la douceur et... La réalité est dure. Alors, pourquoi ne pas le faire prolonger par des sons? Parce que parfois, on me fait beaucoup de compliments, on me dit, mais est-ce que votre attitude est poétique? C'est vrai qu'elle l'est un petit peu, mais elle l'est également chez les musiciens. Pour moi, un musicien qui a cette démarche particulière, il fait de la poésie. Et il n'est même pas question de les diriger, à la limite. Parce que, à partir du moment où ils sont là, je fais un simple travail comme un metteur en scène, et les musiciens jouent un rôle, mais à partir du moment où je les ai prévus, je n'ai pas besoin de leur dire « soyez ce personnage ». Ils le sont, puisqu'ils ont cette personnalité.
Nicolas Fisman, musicien.
Je ne le voyais jamais, ou très très peu, quand je jouais. Il n'était jamais là. Il partait systématiquement, il nous laissait faire. Mais je savais que si je m'en remettais uniquement à mes tics de musicien, comme on a tous fatalement, et j'étais relativement jeune encore à l'époque, donc voilà, il fallait que je trouve autre chose, il fallait que j'aille chercher plus loin. Et bon, ça s'est fait relativement naturellement, mais c'est peut-être quelque chose à laquelle je n'étais pas habitué. Et j'ai vraiment ressenti ça comme ça, j'avais l'impression qu'il fallait que je trouve.
Mais sans qu'il le demande.
Sans qu'il le demande, c'était ça sa grande force en plus. C'est qu'il, enfin, je crois Alain faisait partie de ces gens qui... quand vous les côtoyez, ils vous rendent meilleur, je pense. J'ai vraiment senti ça comme ça. Il parvient à aller chercher des choses chez vous que vous ne soupçonniez pas. Et c'est vrai qu'il apparaissait assez fréquemment, il réapparaissait assez fréquemment une fois que les prises étaient faites. Donc je le soupçonne effectivement d'avoir écouté aux portes et hop là... être apparu au bon moment, en tout cas. Il était très rare qu'il faille l'attendre pour lui faire écouter quoi que ce soit. Et en plus, il arrivait systématiquement avec cette excitation. Ça se voyait dans ses yeux qu'il était curieux d'entendre, d'écouter ce qui avait été fait, quoi.
Comment lui en vouloir?
L'illusion est parfaite, ses yeux, ses touchantes attentions me criblent de rêverie véritable. Je fais comme si c'était pas périlleux, mais ça me rend au chiffon de la savoir, hors d'atteinte, hors de moi. Elvire, comment lui en vouloir? Un autre que moi se serait flingué, moi pas. Je sors sans elle, je fais la joie des anges livreurs. En exil, j'excelle au bar parallèle. Mais saura-t-elle ce que j'éprouve à séjourner au sein d'un logiciel? Oui, saura-t-elle ce que j'éprouve? Inaltérable, au matin m'atteindront frappés par la ressemblance. Attends-moi, me manque pas, tu me manques déjà. Elvire, nos aubaines traquent l'anguille au gymnase. On s'éparpille aux quatre coins. Simuler, dissimuler, simuler. Ce que j'éprouve à séjourner au sein d'un logiciel, oui, sera-t-elle ce que j'éprouve? Elle vient, comment lui en vouloir? Je me tue à t'aimer. Mon archer virtuel n'a d'égal qu'une crécelle de thé de la même virtuosité. Elvire, ce regain, comment lui en vouloir d'être la copie conforme et l'original? Mais sera-t-elle ce que j'éprouve à séjourner au sein d'un logiciel? Oui, sera-t-elle ce que j'éprouve? Elvire, comment lui en vouloir?
France Inter, Bachung. De l'aube à l'aube.
Aujourd'hui, l'aventure américaine d'Osée Joséphine et les collages de Chatterton.
Phil Delire, ingénieur du son et réalisateur.
Chatterton est un album où, en fait, au départ, il y avait une chanson, une structure, mais qui n'arrêtait pas de bouger en fonction des choix. Parce qu'en fait, dans Chatterton, on avait ce qu'on appelait une maquette qu'Alain avait réalisée un petit peu chez lui, à l'époque, souvent avec Jean Fauque. Et à partir de cet élément-là, nous, avec les musiciens, on faisait de la recherche. Donc il y a une partie de la journée où Alain n'était pas spécialement présent dans le studio, ce qui nous permettait à nous de trouver des idées qui allaient ou se rapprocher de ce que lui désirait, quoi. Ça, c'était une partie de la journée. Puis à un moment donné, Alain passait, on pouvait voir directement en son regard si l'arrangement ou la direction ou nos créations lui plaisaient ou pas. Et ça, c'était, il y avait toujours ce moment magique, ce sourire, parce qu'Alain n'était pas quelqu'un qui parlait spécialement beaucoup. C'était beaucoup d'expression dans le regard, dans sa façon de rentrer dans la cabine, qui déterminait en fait si on était dans le bon ou pas, quoi.
Nicolas Fisman, musicien.
Sur cet album, c'était un travail d'assez longue haleine, et puis les studios ICP, donc les trois studios à un moment étaient bookés sur l'album, pour cet album-là. Donc il y avait vraiment des laboratoires partout dans la maison. C'était assez étonnant. Pendant qu'on faisait des rythmiques dans le studio B, il y a un mec qui bossait avec le Pro Tools dans le studio C. Alors c'était les balbutiements du Pro Tools à l'époque, système d'enregistrement numérique. Pendant ce temps-là, dans le A, Phil Delire mixait, commençait à mixer déjà certains titres. Enfin, donc c'était vraiment sans arrêt, tout le monde travaillait là-dessus, tout le monde allait au même endroit. Ça tirait tous azimuts, quoi. Entre Sonny Landreth ou Marc Ribot, qui a fait des choses magnifiques, Michael Brook, qui est venu faire, je crois, ses guitares en une journée. Si je me souviens bien, il a fait de l'infinite guitare sur tout l'album. Dans la journée, parce qu'il était entre deux studios, deux avions, voilà. Donc, c'est un musicien exceptionnel, tellement créatif.
Phil Delire, ingénieur du son et réalisateur.
Il y a des projets où, sur un même titre, on faisait intervenir, je sais pas, 10 guitaristes différents. Et on se retrouvait sur un même titre avec 10 arrangements de guitare, 5 arrangements de basse. À un moment donné, on avait les peintures et on choisissait les couleurs. Et on créait le tableau. Et ça, c'était vraiment fascinant parce qu'à la fin, on arrivait à des belles choses.
Jean-Marc Lederman, musicien.
C'était une façon très, très particulière de visualiser l'apport de chacun. Dans la mesure où certaines couches musicales sur lesquelles il travaillait étaient très expérimentales, c'était vraiment du son brut, si pas du bruit par moment, mais du bruit organisé, alors que d'autres étaient très, je dirais, consensuels, les guitares. Et donc, quelque part, c'est ça qui, moi, me fascinait dans la musique d'Alain quand j'ai commencé à connaître un peu plus sa musique, c'est que c'était vraiment une balade constante entre les choses acceptables et les choses inacceptables, mais mises sous un jour qui les rendait... diluable, je dirais, et supportable par une plus grande audience.
Philippe, on a l'impression, contrairement aux autres projets qu'on peut enregistrer, que le temps compte différemment avec Alain.
Le temps pour Alain n'existait pas.
Phil Delire, ingénieur du son et réalisateur.
La matière temps, c'était une forme de stress et il voulait pas en entendre parler. Et chaque chose faisait à son rythme. Ce qui parfois rendait fou les maisons de disques parce que les dépassements de budget étaient parfois énormes. Mais ça faisait partie de son caractère. Pour lui, le temps n'existait pas. Parfois, il me disait à 4h du matin, tu peux pas m'appeler deux musiciens, j'ai une idée. Je dis, oui, pourquoi pas, on appelle des gens. Pour lui, le jour, la nuit, il n'y avait aucune notion. Pour lui, pas d'espace-temps.
Je passe pour une caravane, pour un chien qui n'en démord pas. Le labyrinthe conduit l'homme mobile à des étreintes, loin du réconfort. Je passe de sas en sas, et mes visites s'espacent. Les ombres se chinent à me chercher des nuances. Le plus clair de mon temps dans ma chambre noire, de l'étuve au blizzard, des coups de latte, un baiser, des coups de latte, un baiser, des coups de latte, un baiser.
Quand il s'agissait de faire les voix, c'était un moment quasi religieux. Alain se mettait dans un état d'esprit particulier pour faire des voix qu'il faisait très rapidement. Comment ça se passait à ces moments-là?
J'étais justement le bonheur avec Alain, c'est que au moment des voix, c'était quelqu'un de très concentré, de très ouvert à sa prestation. Et Alain, on faisait 3 prises et c'était une merveille. C'est un excellent chanteur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme aussi dans la voix et qui connaît ses créations. Donc il sait exactement comment les interpréter, même avec les nouveaux arrangements. Et généralement, le chant est fait en une heure maximum. Et ce que j'adore avec Alain, c'est que c'est un chanteur qui aimait vraiment chanter. Souvent, dans d'autres projets, le chanteur, il faut le prendre par la peau du dos pour l'amener derrière le micro. Alain, c'était pas du tout ça, quoi. C'est quelqu'un qui adorait, il avait une vraie jouissance à chanter. Ouais.
Pascal Nègre, président d'Universal Music.
Moi, j'ai que des souvenirs de plaisir. C'est vrai que tout à coup, oui, participer au fait que un artiste qui a un talent, un univers, tout à coup, a réussi à rencontrer un grand public. C'est formidable. Alors, de temps en temps, effectivement, il y avait, dès que ça rentrait en studio, ça devenait compliqué, bon.
Mais. Parce que vous y alliez, vous, hein, au studio.
Oui, oui, bien sûr, j'y allais. C'était pas moi qui allais décider de qui, de quoi, mais moi, en studio, je suis plus là pour encourager et pour rassurer. Ou pas, d'ailleurs. Bon. Mais, j'ai un souvenir de studio absolument drôle. C'est ICP. On avait chez Barclay à l'époque, et il est toujours d'ailleurs, on avait Björk. Et Björk fait un concert à Paris, il me raconte une histoire drôle, débile, très vulgaire, je m'en excuse par avance. Et elle me dit, est-ce que tu sais pourquoi j'entoure de Chatterton mon cochon d'Inde? Et je lui dis non, il me dit, parce que quand je l'encule, ça évite qu'elle explose. C'est quand même pas très classe de la part de Björk. Bien. Donc je raconte cette histoire débile et vulgaire, je m'en excuse encore, je raconte ça à Bachung qui se met à rire. Et il me dit, Chatterton, tiens, j'ai appelé comme ça mon prochain album. Et je lui dis, tu es même pas capable de ça, parce que de toute façon, mais j'ai hâte de voir les interviews. Et effectivement, il a été formidable en interview, là, ça s'est vraiment appelé Chatterton, et c'est devenu effectivement à la fois, c'est tout le collage, etc. Et puis aussi l'idée que le Chatterton, c'est ce qui évite que le fil qui conduit l'électricité positive et négative se rencontre et fasse des courts-circuits, enfin, tout formidable. Mais enfin, le Chatterton, il vient de cette histoire particulièrement vulgaire, mais quand même racontée par Björk, donc bon...
Archives Radio-Canada.
Et alors avec Chatterton, est-ce que vous vouliez recoller quelque chose?
Ah ben oui, c'est plein de petites choses. Comme ça, je voyais ce ruban adhésif qui partirait de la Terre jusque sur une autre planète. Ouais. Et on essaye. Non, en fait, Chatterton, c'est aussi... j'avais l'impression qu'il était difficile de faire des vraies révolutions. Mais j'avais l'impression qu'on réparait des petites choses, vous savez, comme une fuite, qu'on veut pas changer le tuyau, vraiment. Alors on met un petit bout de
recolle.
Voilà. Mmh. Et on n'osait pas faire de vraies réformes de fond, parce qu'on ne sait pas exactement jusqu'où ça pourrait nous mener. Mmh. Alors on bricole un peu.
On colmate les fuites.
On colmate les brèches. C'était un peu cette idée-là. Mmh. Alors c'est un mot que j'avais mis de côté comme ça, qui restait en bout de course quand l'album était terminé, puis je le trouvais joli aussi.
Vous aimiez la sonorité.
Voilà, donc il y a un petit peu ces idées-là, quoi, de faire des petites réparations alors qu'on dit faut tout changer, tout ça, ouais. Et en fait, on bricole quand même. Mm-hmm. Mais on ne peut pas faire autrement peut-être.
Connais pas la crise, épanouie et l'exil, le trésor satiné, doré à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise, inlassablement se dévoile de mes doigts de palper. Palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances. Abstinence, ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores. Le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour, s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos,
s'écoule à mes oreilles. Ma petite entreprise, que ne pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, c'est bâtiment B. À l'oreille de ce lèvre, la s'écoule à mes oreilles, ma petite entreprise, connaît pas la crise, épanouie et l'exhibe, les trésors satinés, dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube.
Bachung. De l'aube à l'aube. Une émission de Gérard Sutter et David Golland.
Une production de la Radio Suisse Romande pour les radios francophones publiques, réalisée avec les collaborations de Joël Mottier, Mélanie Croballion et Ralph Daller. Thank you.
C'était Bachung, chronique d'une déchirure, sixième épisode du feuilleton des radios francophones publiques. Demain mardi, il sera question du travail de la matière musicale et textuelle et de la reconnaissance publique et professionnelle d'Alain Bachung.